Temps de création radiophonique. Là où l'écho écoute son propre souvenir. Les trois sœurs de Anton Tchekhov. Une pièce réalisée en binaural par Céline Groslot et Anne-Laure Lejeune.
Comment on a fait ça? Déjà avec Anne-Laure, en fait, je pense qu'on a une sensibilité commune très forte parce qu'on a peu parlé, en vrai. On s'est peu expliqué qu'est-ce qu'on veut. Mais en fait, on était carrément en accord. Même là, on fait le montage ensemble. Moi, je fais un pré-montage, après je lui envoie, elle me renvoie. Et on est carrément tout le temps en phase. Donc ça, c'est un peu magique et c'est un peu chouette.
Est-ce que le son serait à la fois didascalie, décor et pourquoi pas personnage?
Ouais, c'est ça. Exactement. Comme dans un film. Comme le son dans un film, en fait. Mmh. Le travail du son. J'avais bossé ça à la fac. Le travail du son dans les films. Comment justement c'est aussi un élément du décor, du montage, du récit. Donc c'est ça, ouais.
Et pour autant, c'est pas un film, ça reste du théâtre.
Et du théâtre. Mais ça ressemble à un film, honnêtement. Même que la manière dont on joue, on a essayé de jouer le plus réaliste possible. Mmh. C'est vraiment du jeu cinématographique.
Ça veut dire beaucoup de retenue?
Ça veut dire pas en faire trop. De toute façon, vu qu'au micro, ça sert à rien d'en faire trop, on est tout prêt. Jouer comme on est dans la vie, un peu, jouer comme on parle. Vu que c'est beaucoup de gens qui parlent et qui expriment des émotions. Mais ouais, c'est ça, sans forcément les dire, c'est un peu entre les lignes. Donc, ouais, plutôt être le plus sincère et le moins emphatique possible. C'était ça l'idée du jeu. En plus, on était texte en main. Donc, autant dire que l'idée, c'était d'être premier jet, quoi. Mm-hmm. Pas d'avoir trop rabâché le texte, blabla. D'être au contraire surpris par ce qui arrive. Moi, j'aime bien les accidents, j'aime bien le bordel. Je voulais que ce soit un peu comme la vie, un peu bordélique et un peu pas propre, forcément. Et donc j'ai gardé les pistes, parce qu'on fait plusieurs pistes à chaque fois d'enregistrement, et franchement j'ai gardé les plus bordéliques, les plus vivantes, quoi, où ça ressemble à la vie.
Et j'aimerais aussi que tu parles donc de l'aspect plus technique de ouais. L'enregistrement, parce que tout à l'heure tu me parlais de micro dans les oreilles.
Oui.
Et je pense que ça peut être bien que tu en parles un petit peu.
Carrément. Alors en fait, la technique du binaural, pour avoir un son binaural à la diffusion, c'est un enregistrement d'une certaine manière. Donc on n'enregistre pas avec un micro en face de la bouche comme de manière classique, ou alors un micro. Enfin bref. C'est Anne-Laure Lejeune qui co-réalise la pièce avec moi, qui se met quelque part dans l'espace avec des micros dans ses oreilles. Et un casque par-dessus pour entendre, et elle nous enregistre comme ça. Donc ça veut dire qu'à l'écoute de la pièce, on entend ce que Anne-Laure a entendu. On entend à travers les oreilles d'Anne-Laure. Et nous, les comédiens comédiennes, on faisait les scènes autour d'elle, en se baladant autour d'elle, en réfléchissant au déplacement, pour qu'on avait une idée de ce que ça donne après à l'écoute. Et on se plaçait tous et toutes en fonction d'Anne-Laure. En se disant que ses oreilles, c'est ce qu'entendront les gens. Donc des fois, on est très très proche d'elle, des fois très loin, des fois sur la gauche, sur la droite, devant, derrière, au-dessus ou en dessous. Et donc c'est comme ça qu'on a enregistré. Et on a enregistré dans une maison. En fait, ça se passe dans une maison à la campagne. Donc on cherchait une maison à la campagne, puis on n'en a pas trouvé. Donc on a enregistré chez Jean-Marie, qui tient la compagnie, qui porte la création et qui joue dans la pièce. Et en fait, il a une grande maison avec plein d'escaliers et un jardin. Et du coup, on a enregistré les différents actes dans différents endroits de sa maison. Et c'est là où on va faire la première séance d'écoute, c'est chez lui, justement. Donc vraiment à l'endroit où on a enregistré. Et on se plaçait tous dans le décor, comme si c'était un décor de cinéma. Et voilà, il y avait des traversées. Enfin, on l'a vraiment travaillé comme un tournage. En plus simple, parce qu'il n'y a pas de l'image. Mais sinon, pour nous les acteurs, c'était comme un tournage. Avec Anne-Laure en référent... oreille de l'auditeur et auditrice.
Ça veut dire que ça pourrait s'apparenter à un plan séquence?
Grave.
Il fallait que tout soit millimétré, ouais. Bien répété,
exactement.
Compris.
C'était ça. Et chaque acte, on l'a départagé en petites scènes, une douzaine de scènes, pour pas, parce que sinon c'était trop impossible de faire 40 minutes de plan séquence. Et on faisait trois fois, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps en vrai, donc trois fois chaque scène. L'acte 2, il est enregistré en intérieur, donc c'est un peu plus resserré. Comme écoute, ça fait pas le même effet. L'acte 3, il est encore dans une autre pièce, donc pareil, ça fait pas le même effet. Et l'acte 4, retour au jardin. Donc chaque acte a comme ça un peu une couleur différente. Et en effet, l'acte 1, c'était l'idée d'ouverture. Comme c'est la sortie du deuil, c'est l'anniversaire d'Irina, tout le monde est content. C'est ouvert vers l'espoir. Et puis après, ça se resserre un peu au fur et à mesure des actes. Et chaque acte, en fait, représente une saison. Donc il y en a 4 et une couleur vraiment différente. Une atmosphère différente.
Ce que j'entends, c'est que c'est aussi un très gros travail de montage.
Ouais.
Je ne sais pas si vous gardiez toutes les micro-scènes que tu détaillais.
Donc, comme je disais, on fait 3 fois les scènes. Il y en a 12 par acte, en gros. J'ai jamais gardé une séquence entière. Donc, c'est vraiment un gros boulot de montage. C'est chouette. C'est chouette à faire. Moi, j'aime bien. En plus, je me forme comme ça, en vrai.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est une formation accélérée au montage-mixage.
Ouais. Carrément. Et puis je l'avais fait déjà pour l'autre pièce là, les Reines, on avait fait une pièce radio, puis j'avais fait tout le montage toute seule, en vrai. Là, quand même, on est deux, j'envoie Anne-Laure, elle me renvoie, comme on n'a pas besoin de trop parler, ce qui est quand même merveilleux, on est tout de suite OK. Genre, j'adore ses propositions. Ça c'est quand même super, donc je pense que c'est un bon partenariat, que ça va continuer. Et ouais, bah là, donc voilà, il faut que je me mette sur l'acte 3 absolument cette semaine. Et oui. Et en plus, c'est un acte quand même où il y a un grand incendie. Donc, il y a beaucoup d'habillage sonore, pompiers, feu, et puis un peu figuration sonore, ambiance, comme on dit dans le doublage, parce qu'il y a plein de gens hébergés dans la maison. Donc, on a fait toutes des séquences de gens qui parlent. Donc, il faut rajouter, c'est vraiment, ça va être un acte très fourni au niveau sonore. Mince, comme on dit, quand on une transposition. On a gardé comme c'est. Mais on ne s'est pas interdit. Enfin voilà, à un moment, il y a l'amant de Natalia qui vient, il fait la cucaracha avec sa bagnole. Normalement, il vient avec une troïka à clochette. Donc on cherchait qu'est-ce qu'il fait à troïka à clochette maintenant. Mais après, il y en a un moment, il joue du piano. On a enregistré du Tchaïkovski. Il y a des. Voilà, on est entre plusieurs époques. Finalement, je me suis dit, on s'en fout un peu. C'est comme ça. Puis vu qu'on prend du son réel, bah, y a forcément, on entend des bruits de travaux, des engins de maintenant, et c'est intégré parce que c'est aussi la vie et aussi un peu le bordel que j'aime.
Le port du casque est important pour une bonne écoute du travail binaural. C'est l'acte 2.
Théâtre présente Les Trois Sœurs d'Anton Tchekhov. Une adaptation radiophonique en binaural réalisée par Céline Grolot et Anne-Laure Lejaune. Pour bénéficier de la sensation d'immersion que procure le binaural, le port d'un casque est obligatoire. Acte 2, Natalia Ivanovna, dite Natacha, a épousé Andrei et vit maintenant au domicile des Prozorov avec leur nouveau-né Bobik. C'est l'hiver, il fait nuit, dans le salon la cheminée flamboie. Les militaires sont toujours en faction dans la bourgade. On attend les masques qui viennent ce soir égayer les maisons du village en jouant de la musique et du théâtre. Les trois sœurs, Olga, Masha et Irina, rêve toujours de Moscou.
Qu'est-ce que tu fais, Androsia? Andriosia? Tu lis? Non, rien, juste comme ça. Il n'aurait pas laissé de lumière?
Qu'est-ce que tu as, Natacha?
Je regarde s'il n'aurait pas laissé de lumière. C'est l'ami Karem, les domestiques ont la tête à l'envers. Il faut toujours avoir l'œil. S'il arrivait quelque chose, hier, à minuit, je traverse le salon, et là, une bougie allumée. Qui a pu l'allumer? Beau demander, pas moyen de savoir. Quelle heure est-il?
8h15.
Dear, Kolga et Irina ne sont toujours pas là. Oh, elles travaillent tout le temps, les malheureuses. Olga a son conseil de classe. Irina est au télégraphe. Oh. Ce matin, je dis à ta sœur... Ménage-toi un peu. Je lui dis, Irina, ma pauvre petite. Et elle, elle n'écoute rien. 8h15, tu dis? J'ai peur. Notre beau Bic. Il est vraiment souffrant. Pourquoi est-il glacé? Hier, il avait de la fièvre et aujourd'hui, il est glacé. J'ai tellement peur.
Rien, Natacha. Le petit va bien.
Mais tout de même, il vaut mieux le mettre à la diète. J'ai peur. J'ai peur. Et aujourd'hui, entre 8 et 9 heures, il paraît que les masques vont venir. Mieux vaudrait qu'ils ne viennent pas, Andriusha.
Écoute, j'en sais rien. Mais on les a invités.
Ce matin, le petit Bouchou. Il se réveille, il me regarde et tout à coup, il me fait un sourire. Ça veut dire qu'il m'a reconnue. Bon Bic, je lui dis. Bonjour. Bonjour, mon mignon. Oh, il rit. Les enfants comprennent. Ils comprennent parfaitement. Alors donc, Andriusha, je vais dire qu'on ne les reçoit pas, les masques.
Mais ce sera comme mes sœurs. Ce sont elles qui décident ici.
À elles aussi, je le dirai. Elles ont bon cœur. Et pour le dîner, j'ai demandé du lait caillé. Le docteur dit que tu ne dois prendre que du lait caillé, sans quoi tu ne maigriras pas. Oh, Bobby qui est glacé. J'ai peur. Il doit avoir froid dans sa chambre. Ne serait-ce qu'en attendant la belle saison, il faudrait le changer de chambre, par exemple. Irina a sa chambre. Elle est parfaite pour un enfant. Bien sèche et du soleil toute la journée. Il faut le lui dire. En attendant, elle pourra partager la chambre d'Olga. De toute façon, dans la journée, elle n'est jamais là. Elle n'y passe rien que la nuit. Mon petit Andriusha, chérie. Pourquoi tu ne dis rien?
Quoi? Je réfléchissais. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Oui.
Je voulais encore te dire quelque chose. Ah oui, il y a Ferapont qui arrive du conseil. Il te demande.
Appelle-le.
Faites entrer.
Bonjour mon petit grand-père.
Bonjour, bonjour.
Qu'est-ce que tu vas nous dire de beau?
Le président qui vous envoie un livre et un papier, je sais pas.
Merci.
Là.
Si, merci, c'est bien.
Voilà.
Pourquoi est-ce que tu viens si tard? Il est 8h passé.
Quoi?
Tu es venu tard, je dis. 8h passé.
Ah oui, monsieur. Je suis venu vous voir, il faisait encore jour, mais il me laissait pas entrer. Monsieur est occupé, il disait. Moi, bon, occupé, je veux bien, j'ai pas le feu, moi. Quoi?
Rien. Demain, c'est vendredi, il n'y a pas de séance, mais j'irai quand même. Ça m'occupera. Je m'ennuie à la maison. Mon petit grand-père, comme la vie change... Comme elle est étrange, trompeuse.
Oh oui, oui, oui.
Aujourd'hui, par ennui,
oui.
Par désœuvrement, j'ai repris ce livre.
Oui, oui.
Un vieux cours d'université, et ça m'a fait rire tout ça.
Ah oui, 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 oui.
Mon Dieu, je suis secrétaire du conseil de Zemzvo, de ce conseil qui est présidé par Protopopov. Je suis secrétaire, et ce que je peux espérer de mieux, c'est de devenir membre du conseil de Zemzvo.
Oui.
Moi, mon petit grand-père,
oui.
Moi, membre du conseil de ce Zemzvo.
Oh,
moi qui me vois toutes les nuits, professeur à l'université de Moscou, un savant célèbre, l'orgueil de toute la Russie.
Je suis pas au courant, c'est-à-dire je suis un peu dur d'oreille.
Si tu entendais bien, sans doute je ne te parlerais pas. J'ai besoin de parler à quelqu'un.
Oui.
Et ma femme ne me comprend pas.
Oui, oui.
Mes sœurs, je ne sais pas pourquoi, elles me font peur. J'ai peur qu'elle se moque de moi.
Oh là là, oui, oui.
Qu'elle ne me ridiculise.
Oh, oh, oh.
Je ne bois pas. Je n'aime pas les bistrots, mais avec quel plaisir je passerai un moment à Moscou. Chez Testov. Oh, grand moscovite. Mon brave grand-père.
À Moscou, un commis au conseil. Tout à l'heure, qui disait ça. Il y avait des marchands qui mangeaient des crêpes. Et il y en a un, il en a mangé 40 de crêpes. Il est mort, ce qu'on dit. 40 ou 50, pouf, je m'en souviens plus.
Tu es à Moscou, dans l'immense salle d'un restaurant. Tu ne connais personne, et personne ne te connaît. Et en même temps,
oui, oui.
Tu ne te sens pas étranger.
Oui, oui.
Et ici, tu connais tout le monde. Et tout le monde te connaît. Mais tu es un étranger. Un étranger. Étranger. Solitaire.
Quoi? Ah ben, le même commis, il disait... Oh, c'était tout démenti, peut-être. Hein. Comme quoi, à travers tout Moscou, et ils avaient tendu un câble. Oh.
Pourquoi faire?
Je sais pas. Le commis qui disait ça. Voilà, voilà.
Des sottises. Tu es allé à Moscou?
Ah non, monsieur. Oh, Dieu aura pas voulu. Je peux m'en repartir?
Vas-y.
Merci.
Porte-toi bien.
Ah ben, salut la compagnie. À bientôt.
Porte-toi bien.
Au revoir. Au revoir, je connais la sortie.
Demain matin, tu passeras, tu prendras ces papiers. Va. Il est parti. Oui, les affaires.
Je ne sais pas. Ah, oh, je ne sais pas. Bien sûr, l'habitude y est pour beaucoup.
Après la mort de père, par exemple, nous avons mis longtemps à nous habituer à ne plus avoir d'ordonnance. Mais en dehors de l'habitude, il me semble que c'est aussi l'équité qui parle en moi. Peut-être n'est-ce pas pareil ailleurs, mais dans notre ville, les gens les plus honnêtes, les plus dignes et les mieux éduqués, ce sont les militaires.
J'ai soif. Je prendrai bien du thé.
Oui, oui, on va bientôt le servir. On m'a mariée quand j'avais 18 ans et j'avais peur de mon mari. Parce qu'il était professeur et moi j'avais à peine fini mes études. Je le trouvais terriblement instruit, intelligent, important. Oh, ce n'est plus le cas maintenant, hélas.
C'est vrai, oui.
Oh, je ne parle pas de mon mari. Je me suis faite à lui, mais les civils, dans l'ensemble, ils sont si souvent grossiers, mal polis, mal éduqués. Oh, la grossièreté, elle me blesse, elle m'humilie. Je souffre quand je vois qu'un homme manque de finesse, de douceur, de tact. Quand je me trouve parmi les professeurs, les collègues de mon mari, je souffre, tout simplement.
Oui. Moi, il me semble que c'est sans importance. Civil ou militaire, ils n'ont pas plus d'intérêt les uns que les autres, du moins dans cette ville. C'est sans importance. Prêtez l'oreille à l'un de nos intellectuels, civil ou militaire, il vous dira qu'il ne peut plus supporter sa femme, supporter sa maison, supporter son domaine, supporter ses chevaux. Le russe est très enclin aux pensées élevées, mais dans la vie, dites-moi, pourquoi en reste-t-il si bas? Pourquoi?
Pourquoi?
Et pourquoi ne peut-il plus supporter ses enfants, supporter sa femme? Pourquoi sa femme et ses enfants ne peuvent-ils plus le supporter, lui?
Vous n'êtes pas bien gai, hein, aujourd'hui.
Possible. Je n'ai pas déjeuné aujourd'hui. Je n'ai rien mangé depuis ce matin. L'une de mes filles est un petit peu malade et quand mes filles tombent malades, je me ronge d'inquiétude. Je me torture de remords à l'idée de leur avoir donné une mère pareille. Si vous l'aviez vu aujourd'hui, quel moins que rien. Nous avons commencé à nous disputer à 7h du matin et à 9h, je suis parti en claquant la porte. Ce sont des choses dont je ne parle jamais. C'est étrange, il n'y a qu'à vous que je me plaigne. Ne m'en veuillez pas. À part vous, vous seul. Je n'ai personne. Personne.
Ce bruit dans le poêle. Peu avant la mort de père, ça a grondé dans le tuyau. Tout à fait comme ça.
Vous êtes superstitieuse.
Oui.
C'est étrange, ça. Vous êtes une femme splendide. Merveilleuse. Il fait sombre ici, mais je vois la lumière de vos yeux.
Il fait plus clair ici.
J'aime. J'aime vos yeux, vos gestes que je vois en rêve. Une femme splendide, merveilleuse.
Quand vous me parlez comme ça, je ris. Je ne sais pas pourquoi. Même si j'ai peur, ne le redites pas, je vous en prie. Oh, et puis bon, parlez-moi. Peu m'importe. Peu m'importe. On vient. Parlez d'autre chose.
J'ai un nom triple. Le baron Tausenbar Krone Aschauer. Mais je suis russe, orthodoxe. Comme vous. Je n'ai plus rien d'allemand, à part peut-être la patience et l'obstination avec laquelle je vous ennuie. Je vous raccompagne tous les soirs.
Irina, chérie.
Bonsoir, ouais. Macha.
Bonsoir. Comme je suis fatiguée.
Et tous les soirs, j'irai vous chercher au télégraphe pour vous raccompagner chez vous. Je le ferai pendant 10 ans, 20 ans, si vous ne me chassez pas.
Enfin, me voilà de retour. Oh, ma Macha. Là, tout de suite, il y avait une dame qui voulait envoyer un télégraphe à son frère à Saratov. Elle veut lui dire qu'elle vient de perdre son fils aujourd'hui même. Et elle n'arrive absolument plus à se souvenir de l'adresse. J'ai envoyé le télégramme comme ça, sans adresse, juste Saratov. Elle, elle pleure. Et moi, voilà que je la rembarre. Je lui dis, je n'ai pas le temps. C'était si bête. Les masques vont venir aujourd'hui ?
Oui !
Oh, se reposer. Fatiguée.
Quand vous rentrez du travail, vous avez l'air si petite, si malheureuse.
Fatiguée. Non, je n'aime pas le télégraphe. Je n'aime pas ça.
Tu as maigri. Et tu as rajeuni. Tu as un petit museau de gamin.
C'est la coiffure.
Oui.
Non, il faudrait que je cherche un autre travail. Il ne me convient pas celui-là. Ce que je voulais si fort, ce à quoi je rêvais, c'est justement ce qui lui manque. Un travail sans poésie, sans idée. C'est le docteur qui frappe. Oh, mon ami frappé, je ne peux pas. Fatigué.
Oui, oui.
Oh, il arrive. Il faudrait prendre des mesures, faire quelque chose. Hier, le docteur et notre Andriy sont allés au club et ils ont encore perdu. Il paraît qu'Andriy a perdu 200 roubles.
Oh, qu'est-ce qu'on y peut, hein, à présent.
Voilà 2 semaines, il a perdu. En décembre, il a perdu. Il ferait mieux de tout perdre. Alors peut-être nous partirions de cette ville. Seigneur mon Dieu, toutes les nuits, je rêve de Moscou. Une vraie folle. Nous déménageons en juin, et d'ici à juin, il reste encore février, mars, avril, mai. Presque 6 mois.
Ce qu'il faut seulement, c'est que Natacha ne sache pas qu'il a perdu.
À mon avis, elle sait bien porte peu.
Le voilà.
Tiens. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, il a payé son loyer.
Oh ben, pas un sou en 8 mois. Il a oublié, faut croire.
Oh, ce qu'il a l'air grave, assis comme ça à sa table.
Vous êtes bizarre, Alexandre Ignatievitch. Pourquoi ne dites-vous rien?
Je sais pas. Je prendrais bien du thé. Mon royaume pour un verre de thé. Je n'ai rien mangé depuis ce matin.
Irina Sergeyevna, ton oiseau blanc. Oui. Venez près de moi.
Ah,
comme pire, my dear. Je ne peux pas me passer de vous.
Oh, on m'avait ramené mes cartes.
Ma foi, s'il n'y a pas de thé, philosophons.
Ah, très bien. À quel sujet?
Quel sujet? Rêvons un peu.
Oui.
Par exemple, à la vie qu'il y aura après nous.
Ah,
à
oui.
200 ou 300 ans d'ici.
Ma foi, après nous, on volera en montgolfière.
Oui.
Les vestons changeront de coupe. On découvrira peut-être un 6e sens qu'on développera, mais la vie restera semblable, difficile, pleine de mystères et heureuse. Et dans 1000 ans, les hommes gémiront de la même façon. Oh. Ah, que la vie est dure. Et en même temps, exactement comme aujourd'hui, ils auront peur de la mort et ne voudront pas mourir.
Ouais.
Comment vous dire? J'ai l'impression que tout sur Terre est destiné à changer petit à petit. Et que tout change déjà sous nos yeux. Dans 200 ou 300 ans, bon, 1000 ans si vous voulez, c'est pas une question de durée, une vie nouvelle, heureuse commencera. Cette vie, bah, nous n'en serons pas bien sûr, mais c'est pour elle que nous vivons aujourd'hui. Que nous travaillons, que nous souffrons enfin. C'est nous qui la créons. C'est cela seul le but de notre existence et, si vous voulez, notre bonheur.
Qu'est-ce qu'il y a, Macha?
Oui, je ne sais pas. Je n'arrête pas de rire aujourd'hui. Depuis ce matin, je ris.
Bon, j'ai interrompu mes études au même stade que vous. J'ai pas fait l'académie militaire. Bon, je lis beaucoup. Mes livres, je sais pas trop les choisir. Et aussi bien, je ne lis pas du tout ce qu'il faudrait. Et pourtant, plus je vis, plus j'ai soif de savoir.
Oh.
Mes cheveux grisonnent, je suis déjà presque un vieillard, mais je sais si peu de choses, hein, si peu. Et quand même, j'ai l'impression que l'essentiel, ce qui compte vraiment, je le sais. Je le sais pour de bon. Comme j'aurais envie de vous démontrer qu'il n'y a pas de bonheur.
qu'il ne doit pas y en avoir, et qu'il n'y en aura pas pour nous. Nous devons seulement travailler, travailler oui. encore. Mmh. Le bonheur, ce sera l'eau de nos lointains petits neveux. Mmh. Bon. Si ce ne sont pas les miens, du moins les petits neveux de mes petits neveux. Mmh.
Même pas le droit de rêver au bonheur, d'après vous. Et moi, si je suis heureux.
Non.
À l'évidence, nous ne nous comprenons pas. Mais alors, comment vous convaincre? Mais riez. Bon, sans parler de 200 ou 300 ans, même dans 1 million d'années, la vie, elle restera ce qu'elle a toujours été. Elle ne change pas, elle est immuable. Elle suit ses propres lois qui ne vous concernent pas. Ou du moins, que vous ne connaîtrez jamais. Oh. Mm. Les oiseaux migrateurs, par exemple.
Oui,
Les grues. Ils volent. Et quelles que soient leurs pensées, nobles ou pas, qui leur passent par la tête, ils continueront de voler sans savoir ni pourquoi, ni vers quoi. Ils volent, ils voleront toujours, quels que soient les philosophes qui surgissent parmi eux. Et d'ailleurs, qu'ils philosophent tant qu'ils veulent, du moment qu'ils volent.
Mais quand même, le sens. Oui.
Tenez. Il neige. Ouais. Où est le sens?
Il me semble que l'homme doit être croyant ou s'efforcer de l'être. Sans quoi, sa vie est vide. Vide. Vivre et ne pas savoir pourquoi les grues volent, pourquoi les enfants naissent, pourquoi il y a des étoiles dans le ciel. Soit on sait pourquoi l'on vit, soit tout n'est que du vent.
Quand même, c'est triste de voir que la jeunesse a passé.
Gogol a dit, quel ennui de vivre dans ce monde, mes amis.
Moi je dirais qu'elle croit de parler avec vous, mes amis. Hein. Là, j'abandonne, là vraiment.
Ça alors, le mariage de Balzac eut lieu à Berdichev. Ah ça, je me le note dans mon calepin. Hein. Le mariage de Balzac eut lieu à Berdichev.
Le mariage de Balzac eut lieu à Berdichev.
À Berdichev.
Le sang en est jeté. Vous savez, Maria Sergeyevna, je donne ma démission.
On m'a dit ça. Et je ne vous approuve absolument pas. Je n'aime pas les civils.
Peu importe. Je ne suis pas beau. Qu'est-ce que je peux valoir comme militaire? Enfin, peu importe, hein, notez bien. Je travaillerai. Au moins une fois dans ma vie, je travaillerai si dur que quand je rentrerai le soir, de fatigue, je m'écroulerai sur mon lit et je m'endormirai comme une masse. Ah, comme ils doivent bien dormir, les ouvriers.
Ah! Ça va, Nounou?
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Quel vent tout de même.
Oui, on en a assez de l'hiver. J'en ai oublié ce que c'était que l'été. Ça tourne bien la réussite. Je vois. C'est gagné. C'est Moscou. Ah,
Macha, le thé servi, ma toute belle. Je vous en prie, Excellence. Pardonnez-moi, mon bon monsieur, j'ai oublié votre petit nom et votre patronyme.
Bah, apporte-le ici, Nounou. Je n'irai pas là-bas.
Nounou ! Mais là, j'arrive !
Vous savez, oh, c'est faux ce que ça comprend, un bébé. Bobic, je lui dis bonjour. Bonjour, mon mignon. Il me regarde d'un regard comme ça. Vous pensez que c'est seulement la mère qui parle en moi ? Non, 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 je vous assure. C'est un enfant extraordinaire.
Cet enfant-là, si c'était le mien, je me le ferais frire à la poêle. Et je me le mangerais.
Grosse personne. Heureux celui qui ne remarque pas si c'est l'été ou l'hiver. Si j'étais à Moscou, il me semble que je serais indifférente autant qu'il fait.
Ces jours-ci, j'ai lu le journal d'un ministre français, un journal écrit en prison. Le ministre était condamné pour l'affaire de Panama. Avec quelle exaltation, quelle joie il évoque les oiseaux qu'il voit par la fenêtre de sa prison. Lui qui n'y faisait pas attention auparavant, quand il était ministre. À présent qu'il est en liberté, bien sûr, c'est comme avant, il ne fait plus attention aux oiseaux. De même, vous, vous ne ferez plus attention à Moscou quand vous y habiterez. Le bonheur, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons jamais. Nous pouvons seulement y rêver.
Bah, où sont passés les petits bonbons?
Salioni les a mangés.
Tous?
Ah, oui. Une lettre pour vous. Bonbon, monsieur.
Pour moi? De ma fille. Oui, bien sûr. Je vous prie de m'excuser, Maria Sergeyevna. Il faut que je m'éclipse. Je ne boirai pas de thé. Toujours ces histoires.
Que se passe-t-il? Ce n'est pas un secret.
Ma femme qui s'est encore empoisonnée. Il faut que j'y aille. Je vais sortir sans me faire remarquer. Terrible, parce que c'est désagréable tout ça. Ma chère, ma merveilleuse, ma douce Maria Sergeyevna. Je vais m'éclipser par là. Hein.
Où il va? Moi qui venais de servir le thé, lui alors?
Mais fiche-moi la paix! Tu es une vraie glu, pas un instant de répit avec toi!
Mais pourquoi tu te mets en colère?
Non, mais tu m'énerves!
Ma petite fille!
Anfusa!
Anfusa, l'autre là-bas!
Mais laissez-moi m'asseoir là! Ils s'installent là avec leurs cartes! Et buvez-le votre thé!
Tu n'es pas gentille, Machka!
Mais si je ne suis pas gentille, ne me parlez pas! Ne me touchez pas!
Ne la touchez pas! Ne la touchez pas! Non.
60 ans, là, et vous êtes là, comme un gamin déblatéré. Oh.
Ma chère Macha, pourquoi laisser rentrer un tel vocabulaire dans ta conversation? Avec un physique comme le tien, dans une société choisie de bon genre, je te le dis comme je le pense, tu serais tout simplement charmante, si tu n'avais pas ce langage.
Entschuldigungsbitte, Maria. Oui, ah, une grosse manière.
Donnez-moi... C'est du cognac, là-bas?
Oh, ein Bobisch. Il est réveillé. Bobic, il me couve un petit quelque chose. Je vais le voir. Excusez-moi. Excusez-moi.
Et Alexandre Ignatievitch, où il est passé?
Il est rentré chez lui. Encore une excentricité de sa femme.
Ah, vous êtes toujours tout seul en train de réfléchir. À quoi? Personne ne sait. Allez, faisons la paix. Vivons du cognac. Aujourd'hui, je vais devoir jouer du piano toute la nuit. Rien que des bêtises, sans doute, hein. Bon, tant pis.
Faire la paix, mais pourquoi ça? Nous ne sommes pas brouillés.
Vous laissez toujours à penser qu'il s'est passé quelque chose entre nous. Vous avez un caractère étrange, hein, il faut bien l'admettre.
Étrange. Moi, qui donc n'est pas étrange, ne t'emporte pas, Alieko.
Il n'y avait que bien faire Alieko là-dedans.
Quand je suis seul, avec quelqu'un, ça va. Je suis comme tout le monde. Mais en société, je suis sombre, timide et je dis des bêtises. Et pourtant, je suis plus honnête, plus respectable que bien d'autres. Oui, bien d'autres. Et je peux le prouver.
Je m'emporte souvent contre vous. Vous êtes toujours à me chercher querelle quand nous sommes en société. Pourtant, je ne sais pas pourquoi, vous êtes sympathique. Bon, tant pis. Je me saoule aujourd'hui. Allez, buvons.
Buvons. Je n'ai jamais rien eu contre vous, baron. Mais j'ai le caractère de Lermontov. Et j'ai même un peu le physique de Lermontov, à ce qu'on dit.
Je donne ma démission, basta. J'ai réfléchi pendant 5 ans, et ça y est, ma décision est prise, je vais travailler.
Ne t'emporte pas, Lieko, oublie ces rêves que tu fis.
Je vais travailler.
C'est un vrai repas du Caucase, de la soupe à l'oignon, et comme plat de résistance, de la tchekartma à la viande.
La tcheremcha. Ce n'est pas de la viande, mon cher. C'est une plante
Du genre de notre oignon.
Non, cher ange, la tchekartma, ce n'est pas de l'oignon, c'est du mouton.
Et moi, je vous dis que la tcheremcha, c'est de l'oignon.
Et moi, je vous dis que la tchekartma, c'est du mouton.
Et moi, je vous dis que la tcheremcha, c'est de l'oignon.
Ah, à quoi bon discuter avec vous? Le Caucase, vous n'y avez jamais mis les pieds. Et vous n'avez jamais mangé de tchekartma.
Non, et je n'en ai pas mangé. Pour la bonne raison que je ne la supporte pas, la tcheremcha, elles sont là.
Assez, mes amis, je vous le demande.
Dieu. Quand viendront-ils, les masques?
Ils ont promis de venir vers 9h.
Ah.
À l'instant, donc.
Ah.
Oh, seuil, mon seuil de bois clair, mon isba dans la lumière, neuf au bord du bois, tu es tout à moi.
Ouais.
Allez, buvons à notre tutoiement. Tous les deux, Andriusha, toi et moi, nous irons à Moscou.
Moscou.
À l'université.
Laquelle? Il y a deux universités à Moscou.
Il n'y a qu'une université à Moscou.
Et moi, je vous dis deux.
Ah bon?
Mettons, même trois, tant mieux.
Il y a deux universités à Moscou. L'ancienne et la nouvelle. Et si vous ne souhaitez pas m'entendre, si mes paroles vous agacent, je peux ne pas parler. Je peux même me retirer dans une autre pièce.
Oui, cette université est bien. Oui, calmez-vous.
Bravo. Bravo. Ah, mes amis, allez-y. Moi, je me mets au piano.
Oui.
Bonne idée. Il est drôle, ce Salioni.
Portez-vous bien.
Mais enfin...
Allez.
Ah oui,
adieu, bonne soirée.
Bonne nuit.
Portez-vous bien, bonne nuit.
Mais enfin, et les masques?
Ah oui, les masques ne viennent pas. Tu comprends, madame Irina, Natacha dit que Bobby est un peu souffrant, alors donc...
Comment ça?
Bon, bref, je ne sais pas, pour moi, ça n'a aucune importance.
D'accord, Bobby qui est un peu souffrant.
À la guerre comme à la guerre, hein.
Alors là, on se fait chasser de chez nous.
Mais puisqu'on nous chasse, et bien partout. Et c'est pas Bobby qui est malade, hein. C'est elle, de la tête. Petite bourgeoise.
Bon, allez, allons dans la rue. On y sera mieux pour parler, on verra ce qu'on peut faire.
Je n'ai pas eu le temps de me marier, Andrei. Parce que la vie, elle a passé comme un éclair. Et puis parce que... j'étais amoureux fou de ta maman. Laquelle était mariée.
Se marier, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que c'est ennuyeux.
Ça, c'est bien vrai. Seulement la solitude... Philosophe tant que tu veux. La solitude, c'est un truc terrible, mon petit gars. Quoique, après tout... évidemment, pas la moindre importance.
Allons-y vite.
Pourquoi se presser? On a
J'ai
le temps.
Peur que ma femme ne me retienne. Ah. Aujourd'hui, je ne jouerai pas, je regarderai, c'est tout. Je suis comme un petit peu souffrant, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire, Ivan Romanitch, contre l'essoufflement?
Pourquoi tu me demandes ça? Mais je me souviens plus, mon petit gars. Je sais pas.
Allez, passons par derrière.
Loulou, qui est là?
Les masques.
Dis-leur qu'il n'y a personne qui nous excuse.
Personne? Où ils sont tous?
Rentrez chez eux.
Étrange. Vous êtes seule ici?
Oui. Adieu.
Tout à l'heure, j'ai manqué de tact. Je me suis conduit comme un rustre. Mais vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes noble et pur, vous. Vous voyez la vérité. Vous êtes la seule. La seule à pouvoir me comprendre. J'aime profondément. J'aime infiniment.
Adieu. Partez.
Je ne peux pas vivre sans vous. Ma félicité. Mon bonheur. Ces yeux... somptueux, merveilleux, stupéfiant. Je n'en ai vu chez aucune autre femme.
Arrêtez, Vassili Vassilitch.
C'est la première fois que je parle de mon amour pour vous. À croire que je ne suis pas sur Terre, mais sur une autre planète. Mais bon. Ah, peu importe. On ne peut pas forcer autrui à vous aimer, bien sûr. Mais de rival heureux, je ne dois pas en avoir. Je ne dois pas. Je vous le jure, sur tout ce qu'il y a de sacré, mon rival, je le tuerai. Merveilleuse.
André est là. Laissons-le lire. Vous m'excuserez, Vassili Vassilitch. Je ne savais pas que vous étiez là. Je ne suis pas habillée.
Peu m'importe. Adieu.
Mais tu es fatiguée, ma chérie. Oh.
Ma pauvre fille.
Tu devrais te coucher plus tôt.
Bobic dort?
Oui, mais d'un sommeil acheté.
À propos, ma chérie, je voulais te dire, mais soit c'est toi qui n'es pas là, soit c'est moi qui n'ai jamais le temps. Pour Bobic, la chambre des enfants, la chambre actuelle, je trouve qu'elle est humide et froide. Ta chambre à toi, c'est l'idéal pour un enfant.
Ma chérie,
ma gentille, installe-toi chez Olia, en attendant.
Chez qui?
Tu partageras la chambre d'Olia. En attendant, la tienne, elle sera pour Bobic. Il est tellement mignon.
Aujourd'hui, je l'ai dit
comme ça.
Bobic, mon tout à moi. À moi. Et lui, il me regarde avec ses petits yeux tout mignons.
Ah, c'est sans doute Olga. Ce qu'elle rentre tard.
Oh, ton popof.
phénomène, celui-là. Protopopov vient d'arriver. Il m'invite à faire un tour avec lui. En troïka. Ah, qu'ils sont étranges, ces hommes. Ah, voilà quelqu'un. Bon, rien qu'un petit tour. Juste un quart d'heure.
Dis que j'arrive. On sonne. C'est Olga, sans doute.
Oh, elle n'a pas fâché d'en arriver.
Je pense que je vais prendre un petit verre d'eau. Bonjour, monsieur. Ça va?
Oh. Alors, ils avaient dit qu'ils donnaient une soirée.
C'est étrange. Bah. Je suis parti il n'y a pas longtemps de ça, une demi-heure. On attendait les masques.
Tout le monde est parti.
Macha aussi? Elle est partie? Elle est partie pour aller où? Et Protopopov, pourquoi est-ce qu'il l'attend en bas, en troïka? Il attend qui?
Oh, ne me posez pas de questions, je suis fatiguée.
Parce qu'elle est capricieuse.
Le conseil vient juste de se terminer, je n'en peux plus. Notre directrice est malade, c'est moi qui la remplace maintenant. Ma tête, ma pauvre tête. Oh, qu'est-ce que j'ai mal à la tête. Oh, Andrei, il a perdu 200 roubles hier, aux cartes. La ville ne parle que de ça.
Oui, moi aussi, il m'a fatigué, ce conseil. Là, tout de suite, ma femme s'est mise en tête de me faire peur. Elle a failli s'empoisonner. Tout est arrangé, je suis content. Je me repose à présent. Bon, alors, il faut rentrer? Eh bien, je vous souhaite le bonsoir.
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 Bonsoir. Fedor Ilitch, allons quelque part tous les deux. Impossible de rester chez moi, oui. Impossible, venez.
Je suis fatigué. Je n'irai pas. Fatigué. Ma femme, elle est rentrée à la maison.
Oui, je suppose.
Adieu.
Adieu, mon ami.
Demain et après-demain, repos toute la journée. Bonsoir.
Bonsoir.
Oh, comme j'ai envie d'un verre de thé. Je comptais passer la soirée en agréable compagnie. Oh, fallacem omnimum spem. Accusatif, exclamatif.
Donc j'irai tout seul.
Allez, hop.
Oh, ma tête. J'ai mal à la tête. Oh. André a perdu. Toute la ville en parle. Oh. Oh. Je vais me coucher. Demain. Ah, oh, demain je serai libre. Oh mon Dieu. Quel bonheur. Demain, je suis libre. Après-demain, je suis libre. Oh, ma tête. Ma pauvre tête. Dors bien. Bonne nuit, ma chérie. Tout le monde est parti. Personne. Je serai de retour dans une demi-heure. Je vais juste faire un petit tour. À Moscou.
Tendre jardin,
s'est perdu. Oh.
C'était l'acte 2 des Trois Sœurs d'Anton Tchekhov. Une adaptation radiophonique en binaural, réalisée par Céline Groslot et Anne-Laure Lejaune. Avec les voix de Céline Groslot, Julia Lemaire, Anne-Pauline Parc, Valentine Gaborio, Mélanie Pocha, Sébastien Prono, Damien Marquet, Thomas Trelohan, Jean-Marie Lorvelec, Cyril Guillou et Jérôme Brutomé. Musique d'Anna Igluka et Erwan Foucault. Merci à Pierre Lebeau pour le piano de Tuzenbach, à Valentine Gaborio pour l'accordéon et les berceuses, et à Anna Igluka pour le chant des sirènes. Portée par la compagnie nantaise Filico, cette adaptation radiophonique a reçu le soutien du département de Loire-Atlantique. À suivre.
C'était le temps de création radiophonique.